Gita Baghdadi, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous sommes dans une librairie de Thonon pour une dédicace d'un livre qui s'appelle « Un maître persan à Thonon-les-Bains ». Alors, qui était ce maître persan déjà ?
D'abord, je vais dire quand même que c'est une page d'histoire locale qui se passe à Thonon en août 1911 et c'est à la résidence, actuellement c'est la résidence du parc et à l'époque c'était l'hôtel du parc, le grand hôtel du parc. Je veux quand même dire que c'est extrait d'un journal intime de Juliette Thompson, qui est une peintre américaine qui a été très connue. Elle a traversé en juillet 1911 l'océan Atlantique pour revoir et rencontrer à nouveau ce maître persan en Europe. Et elle arrive de Londres à Thonon en train après avoir reçu un télégramme qui disait juste « Viens ici, hôtel du parc ». Et ce télégramme est daté du 22 août 1911.
Ce qu'on va déjà, c'est présenter quand même dans un premier temps le personnage, hein, le prophète, je ne sais pas si on dit ça comme ça. Et puis en même temps, aussi un petit coup d'éclairage sur la foi bahaï, parce que tout le monde ne connaît pas forcément.
Ce maître persan s'appelle Abdelbaha, ça veut dire serviteur de l'humanité. Et quand il est arrivé à Thonon, il avait 67 ans et il avait passé avant 60 ans d'exil et d'emprisonnement de la Perse jusqu'en Palestine de l'époque. En 1908, il y a eu la révolution des jeunes Turcs et tous les prisonniers politiques et religieux ont été libérés. Et Abdelbaha, ce maître persan, a aussi été libéré. Et c'est sous l'invitation du premier Bahaï français, Hippolyte Dreyfus, qu'il est arrivé en bateau d'Égypte à Marseille, où il est resté quelques jours, et ensuite où il a séjourné à Thonon, donc à ce grand hôtel du parc.
Alors, un petit mot sur la foi bahaï. L'origine, c'est l'Iran, mais il y a peut-être d'autres origines d'ailleurs.
Alors, la foi bahaï, c'est bien de préciser la foi, parce que religion a une connotation qui est ambiguë, et la foi bahaï regroupe en fait et croit à toutes les religions du passé. Et elle veut l'unité dans la diversité et elle développe aussi tous les principes qui sont en accord avec notre époque. Par exemple, les principes qui sont développés, c'est l'égalité des droits de l'homme et de la femme, avec ce qui se passe actuellement dans le monde et je pense aussi aux Bahaïs en Iran. Ce principe qui a été évoqué dans les années 1850 par Tahereh sont toujours d'actualité, puisque Tahereh, c'est la première femme qui a lancé l'émancipation de la femme dans notre société en se dévoilant et elle était étranglée.
La foi bahaï dans le monde, ça représente combien de personnes actuellement ? On le sait.
Alors, je ne vais pas parler de statistiques dans ce sens-là, mais de dire que la foi bahaï est représentée à travers le monde dans d'énormes localités et c'est la deuxième foi qui est représentée à travers la planète après le christianisme.
Alors, l'histoire se recoupe un petit peu à Thonon-les-Bains d'ailleurs, puisque donc le prophète, hein, on peut l'appeler comme ça effectivement, est venu faire un séjour d'une dizaine de jours, vous me disiez. Donc, pour quelle raison d'ailleurs ? Est-ce qu'on sait pourquoi il est arrivé à Thonon et il a quand même bien visité l'endroit ?
Voilà, il est venu quelque part, je pense, pour se ressourcer avant de traverser toute l'Europe et les Amériques pendant 2 ans. Il a fait un voyage de 2 ans, de 1911 à 1913, pour parler de ce message de paix, d'unité, d'amour que son père voulait transmettre à travers le monde.
Donc c'est un séjour finalement assez court, mais peut-être il a fait des rencontres à ce moment-là avec des gens de la région.
Il y a un livre qui s'appelle « Causerie d'Abdelbaha à Paris », où il a fait plein de causeries et parlé des principes. Mais sa première causerie, il l'a fait à Thonon. Et il parle aussi de pourquoi toutes ces guerres, pourquoi tous ces massacres. Et il faut l'unité de toutes les croyances.
Donc il était quand même assez visionnaire. On n'a pas beaucoup avancé d'ailleurs là-dessus.
Il a été visionnaire. Ça avance à travers le monde, mais c'est par petits pas. Parce qu'à travers le monde, les Bahaïs ont des actions sociales, économiques, des actions humanitaires qui existent aussi bien, je vais dire, dans les 5 continents.
La foi bahaï, c'est le berceau, c'est un peu l'Iran quand même.
Alors la foi bahaï, c'est le berceau, c'est l'Iran. Bahá'u'lláh a développé le principe justement de son message en Iran. Il a eu, on va dire, cette inspiration dans un cachot où il a passé plus de 2 mois enchaîné avec d'autres prisonniers. On ne pensait pas qu'il allait résister, mais le gouvernement ne l'a pas tué, mais l'a envoyé en exil.
Alors on parle de l'Iran justement, et en ce moment avec une actualité que les médias ont mis en avant, avec déjà la situation des femmes, et puis aussi la situation des Baha'is qui font partie des gens qui sont torturés un petit peu tous les jours.
Le gouvernement persécute les Baha'is, et l'intensité et la systématisation s'est accélérée depuis 1979. Et les Baha'is, qu'on chiffre à peu près à 300 000 en Iran, vivent comme des morts vivants. Parce qu'ils sont persécutés, ils n'ont pas de travail, ils ne peuvent pas faire d'études, les universités ne donnent pas droit, ni les écoles d'ailleurs, ne donnent pas droit aux étudiants de faire des études. Les cimetières pour les Baha'is n'existent pas, puisqu'ils les détruisent. Les Baha'is sont tués de façon psychologique, c'est des morts vivants.
Une situation que les femmes iraniennes, en tout cas celles qui veulent un petit peu s'émanciper, connaissent aussi en ce moment, c'est un peu d'actualité aussi ça.
Alors oui, c'est vrai qu'on peut parler actuellement de tout ce qui se passe en Iran, mais nous, en tant que Baha'is, ce qui a été mis en avant, c'est l'éducation. On parle de l'éducation des femmes, on parle de l'égalité des droits de l'homme et de la femme pour avancer.